Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles.
Bonjour Madame Valérie.
Vous allez bien ?
Oui, je vais bien.
Bon, eh bien écoutez, nous on est contents et tristes parce qu'on va recevoir Jean-Pierre Pernaut dans un instant. Demain, c'est la dernière de son 13h. Il a décidé de jeter l'éponge, oui, d'arrêter. Il a dit, enfin vous verrez ce qu'il va nous rappeler, c'est-à-dire qu'il s'est dit que c'était peut-être le moment d'arrêter. Mais on est bien bien tristes parce que c'est quand même une figure, un monument de la télévision.
Plus de 33 ans.
Donc, est-ce qu'il va vous manquer ? Je fais la question du jour aujourd'hui.
Vous pouvez, madame.
Sur Twitter, vous nous répondez. Est-ce que Jean-Pierre Pernaut va vous manquer ? Est-ce que vous le regardiez ? Vous savez que c'était quand même des cartons d'audience.
De 4 millions en moyenne.
Même 6 millions, oui. C'est 6 millions. Là, la dernière semaine cartonne particulièrement.
Oui.
Et je pense que son journal demain va être très, très, très émouvant.
Et qui sera suivi par un documentaire fait par Michel Izard sur sa carrière, son histoire. Voilà, c'est une page de la télé française.
Et le Parisien lui consacre sa une demain, d'ailleurs. Ouais. C'est Jean-Pierre Pernaut face aux Français.
Quand on organise son départ, ça fonctionne bien.
C'est mieux de l'organiser que de se faire virer, c'est sûr. On va passer au zapping.
Ouais.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, il arrive, ça y est, il est là. Ce n'est pas le Beaujolais nouveau, non, mais la France est prête à être vaccinée. C'est Jean Castex qui l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale.
Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourraient donc être réalisées dès la dernière semaine du mois de décembre.
Vous savez comment ils sont, les Français ? Ils râlent déjà. Ah ben non, le 25, le 24, c'est férié. Pourquoi la dernière semaine de décembre ? Donc voilà, ça promet encore pas mal de choses. Le vaccin est là, donc, mais les Français n'en veulent pas. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre a remis un peu l'église au milieu du village et a précisé sur BFM à Maxime Switek comment fonctionnait l'ARN.
En gros, ce vaccin a une sorte de message. Il arrive dans le corps, il délivre son message aux cellules. Elles leur disent ce qu'elles doivent faire pour repérer, pour détruire le virus. Et une fois que ce message a été délivré, il disparaît.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux vaccin ARN va rester présent quelques jours et après il disparaît. Ce qui va persister, c'est la réponse immunitaire. Mais ça, c'est normal. C'est comme après une infection. Après une infection, le virus disparaît. Et pour autant, la réponse immunitaire peut perdurer assez longtemps. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur la persistance de ce vaccin au sein de l'organisme.
Oui, voilà. C'est ça. C'est un messager. Beaucoup de médecins expliquent que quand on parle d'effets secondaires, c'est des effets secondaires tout de suite après la vaccination, des rougeurs, un peu de fièvre, de la fatigue, mais qui disparaissent. Et qu'au-delà de cela, pas d'effets secondaires.
Et il n'y a pas d'adjuvant dedans. Ouais. Voilà, puisqu'on reprochait beaucoup l'adjuvant. Ouais. Pour une fois, il n'y en a pas. Tiens, revoilà Nadine Morano, Valérie. Et vous savez quoi ? La présidentielle, c'est la titille. Alors du coup, elle a été au bar du coin, chez Pascal Pro, discuter du bout de gras et du match Le Pen-Macron.
Je dis que je jouerai un rôle dans cette élection présidentielle, ça c'est clair. Voilà. Et parce que le pays...
Donc vous n'excluez pas, pourquoi pas de vous présenter ?
Mais je ne vous dirai pas ça.
Vous ne l'excluez pas, attendez, je ne vous demande pas de vous présenter.
Non mais écoutez, moi ce qui m'intéresse, d'accord Pascal, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la colère des policiers. Et en second plan, qui va écraser le match ? Parce que j'entends certains... potentiels candidats qui nous disent que personne n'écrase le match. Pour être candidat à une élection présidentielle, il faut justement écraser le match. Il faut être la personnalité.
Ce sera peut-être elle.
Ce sera peut-être elle. Est-ce qu'elle va être assez forte pour écraser le match ? Bon, Valérie, j'ai une question très indiscrète ce matin.
Allez-y.
Est-ce que vous savez ce que fait votre mari quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes avec moi à la radio ?
Non.
Vous savez pas ce qu'il fait ?
Non.
Il va au bar aussi, au bar... Il va au bar de CNews, il était hier interrogé sur l'affaire Grégory, dont il est un spécialiste et qui rebondit en ce moment avec un témoin, mais qui nomme pas de coupable. Il en a parlé, il était chez Pascal Pro, votre mari, hier.
Côté Villemain, il n'y a aucune. Ils peuvent avoir des présomptions, des idées, etc. Mais en tout cas, aucun nom ne leur a été donné. Je sais que dans les jours qui viennent, une rencontre était prévue entre les avocats et les défenseurs de la famille. Est-ce que ça sera l'occasion de leur dire le nom ? Je ne sais pas. C'était pour d'autres actes de procédure. Et quelle que soit la personne désignée, il y aura une contre-expertise, donc on est reparti pour un tour.
Oui, il était un petit peu agacé de ces pseudo-révélations. Oui. Ça fait partie de l'instruction. Il y a des juges d'instruction qui reprennent, qui relancent, et puis la presse remet
Est-ce qu'il croit qu'on trouvera le coupable ou il n'est pas trouvable, le coupable?
Je ne sais pas. Avec l'avancée des technologies, on verra. Parce que c'est vrai que ce qui relance, là, c'est une nouvelle analyse graphologique. On verra.
Donc voilà ce qui fait votre mari quand vous êtes à la radio.
On l'invitera la prochaine fois.
Colère de dingue, de fou, de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7. Alors il faut dire qu'il y avait deux techniciens sur le tournage qui ne portaient pas de masque et que le tournage de Mission Impossible 7 avait déjà été interrompu à deux reprises, avait coûté beaucoup d'argent au producteur dont il est. Colère noire, il va leur dire, puisque j'ai la version originale, je ne veux plus jamais ça, remettez immédiatement votre masque, je vous préviens une dernière fois, je vais vous mettre dehors, les studios nous regardent, est-ce que ça vous amuse que le cinéma ait été arrêté depuis tant de temps? Voilà ce que ça donne en version originale, madame.
We're back here in Hollywood making movies right now because of us. We are creating thousands of jobs, you f***. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're f***ing gone.
Ah, je vous ai mis un petit bout, mais ça dure 2 minutes 30.
2 minutes 30, il est furieux.
La colère est dingue.
Il est furieux, on voit la rage dans ses yeux, il n'est pas content. Bah oui, il est producteur, donc si ça s'arrête...
Et puis le cinéma Hollywood a payé très cher la Covid. Hein.
Absolument. On se retrouve dans un tout petit instant avec notre ami Jean-Pierre Pernaut. Va-t-il vous manquer déjà la question? Vous êtes nombreux à répondre et vous répondez oui déjà à 64%. Donc peut-être qu'il va rester Jean-Pierre demain, il va peut-être annoncer qu'il reste.
Et il est depuis la rédaction de TF1.
Absolument. À tout de suite avec Jean-Pierre Pernaut.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre.
Salut Valérie, salut à tous.
Comment ça va?
J'ai compté les jours pendant pas mal de temps, maintenant je vais compter les heures.
Oui. Demain, dernier journal, dernier 13h. Justement, quand je vous dis comment ça va, c'est dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous allez nous annoncer que finalement, vous avez réfléchi et puis devant la pression populaire, vous avez décidé de rester? Allez, dites-nous ça.
Allez, bon, vous voulez que je vous annonce que finalement, c'était pour rire tout ça?
Oui.
Non, je pourrais vous l'annoncer, mais je ne l'annonce pas. C'est vraiment une décision que j'ai mûrement réfléchie l'été dernier. Alors, je ne vais pas revenir en arrière. Oui. Vous dire que ça ne me fait rien, ce serait un gros mensonge. Ça va être une énorme pression demain. Et puis après, il y aura un petit peu de vacances. Et puis, tout ça va bien se passer pour celle qui va me remplacer, Marie-Sophie.
Est-ce qu'il y a eu des nuits un peu agitées ou pas du tout, où vous savez que c'est votre dernier JT?
Non, je sais que c'est le dernier parce que je l'ai quand même annoncé il y a presque 3 mois, le 15 septembre. C'est vrai que la pression monte parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. La rédaction de TF1 avec Anne de Coudenhoff, qui a été très longtemps ma rédactrice en chef, a préparé un journal spécial d'une heure. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y aura des surprises. On ne fera pas de fête à TF1 malheureusement à cause du confinement, mais il y aura des surprises pendant cette heure d'antenne. Donc j'ai la trouille.
Vous avez la trouille de ce que votre équipe vous a préparé, mais c'est vrai que c'est quelque chose, non? 32 ans, 33 ans en fait, quasiment, c'est la 33e année de JT. 33e année de JT. Donc c'est.
J'arrive aux 33 ans. Un mois après, ça fait 33 ans. Ça fait en gros 7000 journaux télévisés, 7000 conférences de rédaction, 115 000 reportages. Enfin bon, j'ai eu le temps de les compter presque à main. Et. C'est vrai que ça va faire quelque chose pour moi. C'est la fin d'une page de ma vie. J'en entame une autre le 4 janvier, puisque je vais me lancer dans une plateforme numérique, dans une nouvelle émission sur LCI. Donc, je n'arrête pas. Je change de rythme. Me lever tous les matins à 6 heures, c'était un peu trop compliqué à l'approche de mes 71 ans.
Oui, c'est ça en fait qui vous a fait, vous l'avez déjà expliqué, prendre cette décision, mais vous n'arrêtez pas l'antenne pour autant, on va vous voir sur LCI, sur une plateforme et avec ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire, c'est-à-dire être proche des gens, aller à la rencontre des Français, ce qui a fait aussi votre patte, votre succès, votre caractéristique, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va voir en janvier?
Alors en janvier, à partir du 9 janvier, tous les samedis sur LCI, une émission qui va s'appeler Jean-Pierre et vous, où je serai avec mes correspondants en région, qui continueront donc à travailler un petit peu avec moi, J'ai créé ce réseau en 1988 et j'en suis très fier pour s'intéresser à la vie des Français. Donc je continuerai à être avec eux pour faire parler monsieur et madame tout le monde sur l'antenne de LCI. C'est l'une des rares émissions des chaînes d'info où on fera parler les Français d'abord avec des journalistes de LCI pour les aider s'ils ont des questions à se poser. Donc ce sera tous les samedis. Et puis une plateforme numérique, la JPP TV. On va regrouper tout ce qui fait la richesse des régions. On a une bibliothèque d'images extraordinaire avec les reportages qu'on a déjà faits. Ouais. On a les reportages qui vont s'enrichir encore au fil des semaines et au fil des mois, avec tout ce qui se fait aussi maintenant dans les journaux de 20h, dans les journaux du week-end avec Anne-Claire, les Zooms, les découvertes du 20h, les magazines du 13h. Et on va remonter dans nos archives. On suivra aussi les opérations comme SOS Village, l'élection du plus beau marché. Je vais continuer là-dedans plus que jamais.
Moi, je voulais vous proposer d'écouter votre premier JT. Alors, évidemment, on vous l'a énormément diffusé cette dernière semaine pour ce dernier JT. Mais nous, on avait quand même encore envie de l'écouter.
Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa.
Ça n'a pas tellement changé, hein, la voix est quasiment la même.
Elle était un peu nouée quand même ce jour-là, parce que ce jour-là, il y avait une quarantaine de photographes sur le plateau qui venaient voir la tête de celui qu'ils ne connaissaient pas, parce que je présentais le journal de la nuit. J'avais déjà travaillé 3 ans avec Mourouzi, mais là, tout seul, aux commandes du 13h, il y avait 40 photographes. J'avais la voix un peu nouée, ça s'entend un petit peu.
Vous devez être un des seuls à partir de votre plein gré. La plupart des présentateurs de JT sont virés, non?
Vous êtes le premier, le seul, non? Je ne suis pas le premier. Je crois que David Pujadas a arrêté de son plein gré de présenter le 20h de la 2 pour rejoindre LCI, une autre émission. Mais je suis, c'est vrai, le premier présentateur titulaire. Alors que tout va bien, je ne suis pas débauché par personne. J'ai décidé d'arrêter parce qu'à un moment, il faut arrêter. Vous savez, l'équipe, elle fonctionne merveilleusement bien. C'est une grosse machine, le 13h. Ouais. Donc, je n'ai aucune inquiétude pour la suite. Et c'est au moment où tout va bien qu'il faut justement, je pense, à mon avis, j'ai pris cette décision. Voilà, il faut arrêter. Ouais.
Mais est-ce que le 13h est plus fort que le présentateur? Question un peu vache.
J'en suis convaincu. Non, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, Valérie, parce que c'est vrai que le présentateur, c'est important. C'est vrai que le rendez-vous que j'ai avec les gens, la personnalité, ma personnalité à l'antenne, elle est quand même importante. C'est évident, parce qu'au fil des années, j'improvise, je dis parfois ce que je pense. J'essaie d'être très proche des gens, donc ça, c'est ma personnalité. Elle fait partie du 13h, mais la machine 13h, c'est quelque chose qui fonctionne merveilleusement bien. C'est un réseau de correspondants région, c'est une rédaction à Paris qui sait à peu près à qui on s'adresse le midi, on s'adresse aux Français. Donc la machine fonctionne bien. C'est sûr que la personnalité du gars qui de temps en temps bafouille un peu, c'est moi, de temps en temps, j'ai pas de téléprompteur, j'improvise beaucoup. Je dis ce que je pense parce que j'essaie de me mettre à la place des gens. Vous savez, quand je présente le journal, je dis toujours, je présente le journal que j'aimerais voir si j'étais chez moi. Donc, de temps en temps, en regardant la télé, on se dit, mais attends, j'ai rien compris là. Eh bien, le présentateur, il dit aussi, tiens, ben, il n'a rien compris non plus. Voilà, c'est tout.
Vous êtes d'accord avec Laurent Guimier qui dit Marie-Sophie Lacaro n'est pas Jean-Pierre Pernaut, ou vous n'êtes pas d'accord avec cette vacherie qu'il a lancée?
Non, je ne sais pas. Non, elle n'est pas Jean-Pierre Pernaut parce qu'elle est Marie-Sophie Lacaro. Elle est née à Villefranche-de-Rouergue. Elle a un petit accent. Elle est pétillante à l'antenne. C'est une excellente présentatrice. Quand elle est arrivée sur la 2, je peux vous dire que je l'ai regardée de près en me disant « Oh là là, attention, c'est une super présentatrice, elle. » Et qu'elle me remplace, je trouve ça génial. Et puis, elle y travaille là depuis 2 mois avec nous, avec moi, avec les équipes du 13h et avec les correspondants en région. Elle sera en pleine forme le 4 janvier et le journal va continuer.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure, on ne m'a pas débauché. Est-ce qu'on a essayé de vous débaucher tout au long de cette carrière ou pas?
Tout au début, mais avant que je sois au 13h. Depuis que je suis au 13h, personne. J'ai failli partir sur la 5 quand la 5 s'est créée. Ouais. Finalement, Dieu merci, la 5 s'est arrêtée et moi j'étais resté à TF1 finalement. Bon, j'ai bien fait, je crois.
Ouais, je crois que vous avez bien fait, effectivement.
Ouais. J'ai failli être débauché par Canal+, aussi à un moment, à la création de Canal+. Pierre Lescure m'avait appelé. Et puis finalement, ils me proposaient des stock options. Moi, j'étais intérieur, je ne savais pas ce que c'était que des stock options. J'ai dit non, non, je garde mon petit salaire à TF1.
Pourquoi vous êtes allé sur Quotidien, sur le plateau de Quotidien, alors qu'ils se sont moqués de vous pendant des années? Moi, j'étais très surprise de vous voir à Quotidien.
Barthes, oui, il se moque de moi, il se fout de ma gueule, même carrément. Ouais. Mais pourquoi ne pas aller chez eux? Je suis allé un petit peu partout, donc voilà, ouais. Pourquoi ne pas aller chez eux? Il se moque gentiment, puis TMC, c'est groupe TF1 quand même. Il dit pas de mal de moi, il se moque de moi. Et finalement, j'aime bien les gens qui se moquent.
Bon, c'est quoi votre jardin secret, Jean-Pierre? Est-ce que vous
J'en ai pas, je crois. Faites... J'étais tellement suivi, couvert, etc. J'ai plein de... Voilà, j'aime bien mon jardin.
Jardinage, oui, c'est ça, le jardin, la cuisine. Qu'est-ce que vous
jardin,
faites,
le pot-au-feu, le sport automobile, quand même. Ouais, ouais. Et puis voilà.
Est-ce que vous avez préparé pour demain votre dernière phrase? On sait que les journalistes comme Patrick Poivre d'Arvor avaient prévu Adieu Vat en breton. Est-ce que vous connaissez le dernier mot que vous allez prononcer demain?
Non.
Pas encore.
Non. Mais pas du tout. Je ne sais pas, ça va dépendre de mon état d'esprit demain, ça va dépendre des petites surprises de la rédaction. Est-ce que je serai en état de prononcer un mot à la fin? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai souhaité que Marie-Sophie vienne sur le plateau et je voudrais la présenter aux téléspectateurs de TF1.
C'est bien qu'il y ait une transmission, qui se fasse. Vous avez été élu présentateur préféré des Français, donc vous par le magazine TV Magazine. Donc c'est une consécration ultime, cette popularité. J'imagine que quand même vous en êtes très fier.
Oh, bien sûr, je suis fier de tout ça. Je suis fier du boulot. Je suis fier de laisser d'avoir impulsé quelque chose dans l'audiovisuel qui serait venu tout seul, même si je n'avais pas été là, c'est-à-dire davantage de proximité dans le traitement des informations. C'est vrai que quand j'ai commencé à le faire en 88, ce n'était pas à la mode du tout, ça a été décrié, ça a été critiqué, puis moi j'y suis allé complètement. Mais maintenant tout le monde est dans l'info de proximité, c'est normal, c'est naturel, c'était naturel que ça évolue comme ça. Moi je l'avais senti peut-être avant les autres. Voilà, donc je ne sais plus ce que tu me disais, Valérie.
Non, je disais, c'était le plaisir d'être présentateur préféré des Français.
Ouais,
lundi matin, vous faites quoi?
Lundi matin, je serai en vacances au soleil avec ma femme et mes enfants. Donc je pars samedi, si je peux partir, bien évidemment. Ouais. Mais on a décidé de prendre des vacances, comme tout le monde en a... Voilà, on avait Nathalie, elle, samedi soir, ne part pas avec moi samedi, que samedi soir, elle est membre du jury de l'élection de Miss France.
Absolument.
Donc, elle me rejoindra quelques jours après. Mais voilà, donc c'est...
Des vacances. C'est les vacances. Les vacances bien méritées.
Ouais, et puis dès le 4 janvier, je redémarre parce qu'on relance à JPP TV avec des blogs, avec des coups de cœur et des coups de gueule que j'essaierai de mettre sur cette page Internet. JPPTV.fr, c'est facile. Vous y allez... Il suffit c'est gratuit, on donne simplement son mail pour qu'on puisse vous alerter quand il y a des nouveautés. Et plein de reportages, plein de magazines, les opérations du 13h, mes coups de gueule, mes coups de cœur. Donc je m'y remets le 4 janvier. Et puis le 9 janvier, le démarrage à l'antenne de Jean-Pierre et vous sur LCI Canal 26.
Très bien.
Peut-être comme brut, JPP TV recevra le président. Vous avez vu, il est habitué aux réseaux sociaux maintenant.
Le but n'est pas celui-là. Le but, c'est de montrer des belles images sur le patrimoine et d'avoir de temps en temps mes petits coups de cœur, mes petits coups de gueule sur l'actualité liée au terroir et aux régions. Puis un livre aussi. Je sors un livre le 11 février.
Oui, un livre chez Michel Lafon. Absolument, chez Michel Lafon.
Mais oui.
Qui est quoi? Qui est une biographie?
C'est un peu ça. Je raconte 33 ans de souvenirs avec les gens, avec quelques souvenirs de l'antenne. Qu'est-ce qui me restera de cette période? Et ce que j'ai pu apporter au 13h et à la télé.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Pernaud, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne nuit avant ce dernier JT.
Ça va être dur.
Valérie, on parie sur quoi? On parie sur 7 millions? Et on fait un pari tous les deux?
Il y a l'audience demain, oui.
Ah ouais, on fait quoi? Allez, 7 millions.
Au moins 7 millions.
Non, il ne faut pas regarder les audiences demain. Il ne faudra pas regarder celle du 4 janvier. Il faudra regarder celle de l'année prochaine et je suis convaincu qu'elle va être très belle au journal de 13h.
Bon, on vous embrasse, Jean-Pierre. Merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour ce 13h. Et puis, On se retrouvera, je suis certaine, un jour, comme on dit. Merci à vous.
On va relancer combien ça coûte. J'ai envie de relancer combien ça coûte, moi.
Eh ben, je suis partante, on se le dit à chaque fois. Moi, je suis... Et vous savez quelle émission il faudrait relancer ? C'est La France défigurée. Vous devriez en faire une chronique dans votre JPPTV.
Ouais. J'ai lancé dans le journal de 13h, il y a 3 mois, cette nouvelle rubrique qui s'appelle La France défigurée, avec l'accord des enfants de Michel Péricard et Louis Berriot, pour relancer cette émission des années 70, parce que les paysages sont abîmés. On a relancé la chronique, l'actualité nous a un peu perturbé là, en fin d'année, mais elle va être reprise, je pense, par Marie-Sophie, comme les autres chroniques, votre histoire, l'actuez-vous. Mais La France défigurée s'intéressait aux paysages, c'était notre manière à nous de défendre l'environnement.
Merci beaucoup Jean-Pierre, bon JT, bon dernier JT demain, on vous embrasse bien fort. Salut,
on va essayer de bien dormir ce soir.
Oui.
Bye.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Voilà. Il est sympa ce Jean-Pierre Pernaut, je pense qu'il va être très ému demain.
Demain ça va être, ça va être dur.
Ça va être dur pour lui, toute une époque. Sur Twitter, on vous a demandé s'il va vous manquer justement. Eh bien oui, en majorité, sur le compte Twitter de Sud Radio, vous êtes 60% à nous dire que oui, il va vous manquer. 40% non, il y a Magdalena qui nous dit que le journal sans lui ne sera plus le même. Et c'est une très belle personne, près du peuple français. Ouais. Et oui, toujours près des régions et des Français, Jean-Pierre Pernaut. Voilà,
et
madame.
Oui, bah écoutez, on le regardera demain. Déjà, tous les scores de cette semaine, il a cartonné, il explose. Les gens sont là et demain, je crois qu'il lui prépare. Enfin, toute la semaine, il y a eu des petites surprises.
Ouais.
Et que demain, ça va être encore...
L'apothéose.
Absolument. On se retrouve dans un tout petit instant avec une infirmière libérale. On a assez peu parlé des infirmiers, les oubliés du Covid. On vous pose la question. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons
vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble, nous commenterons l'actualité à 11h moins le quart. On va parler de la vaccination, évidemment, du programme de vaccination, du passeport vert, on y reviendra dans un instant. Je suis en ligne avec Bérangère Taillac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière libérale à Montpellier et on a assez peu parlé des infirmiers dans tout le dispositif pour lutter contre le Covid. Vous êtes aujourd'hui sur le terrain pour également faire des dépistages. Racontez-nous ce que c'est que votre quotidien aujourd'hui.
Alors, mon quotidien... Il est différent par rapport évidemment au premier confinement puisque les interventions chirurgicales n'ont pas été annulées durant le deuxième, donc on a eu quand même un peu plus de travail qui ressemblait un peu à notre rythme professionnel de d'habitude. En ce qui concerne les tests antigéniques, je l'ai déjà dit sur votre antenne et oui, je le redis, c'est un acte infirmier. Les infirmiers libéraux peuvent le faire, doivent le faire, mais c'est pas encore arrivé dans la tête des gens et tout le monde passe par les pharmacies, ce que je trouve quand même assez dommage, même oui, si je m'entends moi très très bien avec les pharmaciens de mon quartier.
Oui. Mais vous dites que vous pourriez soulager les pharmaciens et puis que c'est pour les gens parfois peut-être plus simple. Et donc là, il y a encore une fois un problème de communication.
Oui. Il y a un problème de communication, de valorisation de notre profession. Ouais. J'attends quand même de l'ordre infirmier, des syndicats qui quand même font ce qu'ils peuvent, eux, ouais, à ce niveau-là. Mais quand on entend dans les médias, les médecins, les pharmaciens ouais, peuvent vous dépister, non, il n'y a pas que eux. On est là, on existe, on sait venir nous chercher pour plein d'autres choses, mais là, on a un rôle à jouer et on le dit pas assez. Moi-même, je le fais en coopération avec les pharmaciens parce qu'on me l'a proposé, parce que évidemment c'est un soin, c'est un acte infirmier, un prélèvement nasopharyngé, on nous l'apprend à l'école, je doute qu'on apprenne ça à la pharmacie, voilà.
Mais quand vous allez faire des tests comme ça, vous êtes harnaché en scaphandre, enfin, genre, vous êtes extrêmement protégé?
Oui, on est protégé. Le problème, ce qui se passe dans la réalité, c'est que nous, on a dû s'auto-protéger comme on a pu. Ouais. Que ce soit pendant le premier ou deuxième confinement, on a vu les surblouses, les charlottes et les masques quadruplés de tarifs. On a bien dû s'adapter. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais ça a été le cas. Nous, on se protège quand on va chez les gens. Voilà. Est-ce que toutes les pharmacies ont installé des tentes extérieures? Ouais. Je sais pas. Mais nous, les gens qui sortent de chez eux, qui sont éventuellement positifs pour aller se faire tester, peuvent très bien rester au chaud chez eux et nous, on va à leur rencontre avec nos protections. Oui. Ce qui me semble quand même, dans l'actualité des choses, la meilleure chose à faire.
Et est-ce que c'est suffisamment payé? J'ai discuté hier avec une infirmière qui me disait que c'était quand même pas très très payé cet acte-là pour les infirmiers.
C'est tout le paradoxe, madame, de la profession, c'est-à-dire qu'un médecin, un infirmier ou une pharmacienne n'a pas du tout le même tarif pour le même acte. Ouais. Et évidemment, nous sommes en bas de l'échelle. Ouais. Vous savez, une injection intramusculaire dans laquelle on amène notre seringue, notre aiguille, notre alcool et notre coton, c'est 3,15 €. Ouais. C'est 3,15 € pour nous. À ça, vous enlevez la moitié parce qu'on a des charges, évidemment. Ouais. Donc, c'est la nomenclature qu'il faut revoir dans son intégralité. Oui. Et même, j'ai envie de vous dire, le test antigénique n'est pas si mal que ça par rapport à la vieille nomenclature qui existe déjà.
Oui. Vous avez le sentiment que les infirmiers sont effectivement les grands oubliés. On a parlé des pharmaciens, des médecins, des hôpitaux, mais les infirmiers, infirmières qui ont joué un rôle, encore une fois, on en a vraiment peu parlé.
Oui, on en a peu parlé, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement notre quotidien que presque, moi, j'étais très très contente et très émue quand on a pu applaudir au balcon. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Pas grand-chose. Ouais. C'est notre quotidien. Moi, je suis allée dans les caves coopératives, aller chercher des surblouses et des protections. Je banalise pas la chose, mais malheureusement, c'est notre quotidien.
C'est compliqué. Jean Castex, hier, a évoqué le calendrier de vaccination. Vous allez y être associé? Vous avez des informations sur le sujet?
Je l'espère. faire. Ben oui. Là, je sens le nouveau problème comme les vaccins grippaux qu'on nous a volés, hein, parce que quand même, un vaccin, c'est un acte infirmier, encore une fois. Ouais. Ça va être la même chose. J'ose espérer que non, mais le vaccin contre le Covid, ça doit être les infirmières qui le font. Ouais. C'est quand même notre boulot. Après, on va nous pleurer quand on n'existera plus. Ouais. Mais franchement, on est en train de disparaître.
Oui, c'est ce que me disait cette ancienne infirmière avec qui je parlais, pour tout vous dire, qui fait partie de ma famille, et qui me disait, je vois qu'il y a de plus en plus d'infirmières libérales qui arrêtent, quoi. Et puis il n'y a plus de vocation, il n'y a plus envie d'aller travailler, effectivement, comme vous le disiez, pour 3 euros pour une injection. Enfin, c'est,
mais en plus, ce qui est dingue, c'est que dans la tête des gens, dès que tu dis que tu es infirmière, on te regarde, oui, ouais, c'est un beau boulot. Dès que tu rajoutes libéral, on a l'impression que tu es milliardaire. Ouais, ça, c'est faux, archi faux. Et les choses ont changé. Moi, ça fait 16 ans que je travaille. Je vais vous dire que ce qu'on gagnait il y a 16 ans n'est plus du tout ce qu'on gagne aujourd'hui. Ouais. Déjà, on est extrêmement nombreuses puisque toutes les filles partent de l'hôpital. Ouais. Donc, elles veulent se mettre tout à leur compte. Donc, il n'y a plus comme avant. On est beaucoup trop nombreuses. Un patient vous appelle pour vous demander un soin. Vous êtes occupé parce que vous faites un autre soin. Vous rappelez une minute après, il a pris quelqu'un. Ouais, après, je parle dans mon cas parce que c'est Montpellier.
Oui, mais c'est ce qui était intéressant d'avoir justement votre témoignage à vous qui êtes sur le terrain tous les jours, non syndiquée. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir ce type de témoignage. Et Jean Castex hier annonçait donc auprès de chaque malade, il allait envoyer des infirmiers en janvier, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Oui, c'est ce que j'ai eu entendu aussi. J'ose espérer encore une fois qu'on nous donnera notre place et notre rôle à jouer là-dedans. Moi, ça sera un plaisir que d'aller vacciner, comme d'aller voir mes patients depuis 15 ans. J'adore mon métier, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais donnez-nous les moyens de le faire correctement et avec la valorisation qui va de soi.
C'est ça, les moyens. Quand vous dites les moyens, c'est les moyens financiers aussi, parce que on imagine que faire un test, même si c'est mettre un écouvillon dans le nez, il y a un savoir-faire, ça prend du temps, vous allez chez les gens.
Évidemment, et j'ai envie de vous dire, s'il y a tant de faux négatifs, c'est peut-être parce que les prélèvements ne sont pas bien faits. Il y a une technique de soin à faire dans un prélèvement nasopharyngé, et ça s'apprend.
Mais moi, je ne savais pas, vous voyez, je l'ai appris en préparant l'émission, que les infirmiers pouvaient faire ces prélèvements.
Et oui, vous êtes parmi tant de gens. Moi, je le dis. Alors, il y a le souci aussi pour notre profession, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité entre guillemets. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je le placarderais sur ma voiture. Je fais les tests antigéniques, mais je n'ai pas le droit de le faire. Donc, évidemment, je ne le fais pas. J'en parle autour de moi, j'informe, mais ça reste local. C'est là que les médias, ils ont quand même un rôle à jouer et à dire les infirmiers libéraux de votre secteur peuvent vous faire les tests antigéniques.
Mais pas PCR. Vous n'avez pas le droit de faire les PCR.
Si, moi, je fais les PCR et j'amène les écouvillons au laboratoire de mon quartier. Je suis allée les voir, on en a discuté et ils m'ont dit, pas de souci. Alors, on en a moins depuis que les tests antigéniques sont là. On en a moins, mais si, nous, on peut... Dès qu'il y a une cotation dans la nomenclature et qu'on crée un acte, on le fait. Voilà. Faut-il en informer les gens aussi ?
Mais c'est ça, c'est que je vois les gens qui font la queue, même parfois des personnes âgées, devant les laboratoires. C'est insensé que cette information ne soit pas passée partout, que des infirmières peuvent venir chez vous faire un prélèvement, que ce soit pour un test antigénique ou PCR.
Bien sûr. Après, libre à nous de pouvoir l'inclure dans notre tournée ou pas. Il y a des filles qui ont peut-être une énorme tournée avec des patients fragiles, et qui d'elles-mêmes ne veulent pas prendre le risque de faire les dépistages Covid. Ça, je le comprends tout à fait, et ça s'explique aux gens qui le comprennent aussi.
Alors, je voulais vous faire réagir donc sur ce que disait Jean Castex hier. Il a dit donc 1500 infirmiers libéraux et 3000 accompagnateurs sociaux vont être mobilisés chaque jour pour rendre visite aux personnes malades qui décideraient de s'isoler. Mais ils vont les trouver où, les 1500 infirmiers libéraux ?
Je sais pas.
Non, mais enfin, j'ai été un peu frappée par cette annonce, parce que est-ce qu'il y a, puis ça veut dire quoi, mais à la fois c'est beaucoup et c'est peu. Si on dit toutes les personnes malades, c'est une... Non.
Moi, je vais vous dire, j'ai le cas précisément en ce moment, et là, je suis en train de la faire, ma tournée, hein, donc, d'un patient chez qui je fais des anticoagulants pour 3 mois. Il a eu une intervention de la hanche, donc il a besoin de trucs. Il a été dépisté positif. Ouais. Donc, évidemment, que la continuité des soins est là, que je continue d'aller chez cette personne en, évidemment, prenant toutes les précautions qu'il faut, encore plus davantage, sachant qu'il est dépisté Covid, avec dépistage de la famille, recommandations, gestes barrières, voilà, avec tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien à moi. Si vous voulez, cette personne vivait depuis 3 mois, la sécurité sociale l'appelle en lui disant « vous êtes positif », à aucun moment on ne me l'a dit. Ouais, si cette personne ne me dit pas « attention Bérangère, je suis positif », je ne le sais pas.
Bah écoutez, on vous souhaite du courage, vous aurez peut-être un nouveau patient, puisqu'Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, a été testé positif au Covid. Bon, il est un peu loin de vous, je le reconnais, mais donc voilà, c'est l'info du jour. Positif, ça ne veut pas dire qu'il est... il peut être asymptomatique. Tout à fait.
Il est positif, heureusement, dans la majorité des cas, son porteur sain, on va dire. Ouais. Donc,
mais enfin, comme il voit beaucoup de monde, je pense que ça va quand même être un peu panique à bord à l'Élysée, même si je pense que le président de la République est masqué relativement souvent. Merci
et
beaucoup.
S'ils veulent que je monte à l'Élysée faire un test antigénique, il n'y a pas de problème.
Ça va vous coûter un peu cher, peut-être en essence.
Hein, c'est pas grave. Je serai logé sur place.
Voilà, et puis vous aurez des choses à lui dire. Merci beaucoup, Bérangère Taillac, infirmière libérale à Montpellier. On en profite pour rendre hommage donc à tous ces infirmiers, infirmières, qu'ils soient dans les hôpitaux, infirmiers libéraux. On voit, j'ai eu l'occasion d'aller dans des hôpitaux récemment et je dois dire que, franchement, c'est une profession, comme elle le disait Bérangère, qui mérite toute notre admiration et celle du gouvernement et des autorités pour revaloriser quand même tous ces actes et ces métiers qu'elles font dans un dénuement assez, assez complexe. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.